Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore, animatrice de l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler du coaching familial. À quel moment une famille a-t-elle besoin d'un coach? La famille est le berceau de notre identité. On y trouve la réponse à nos besoins primaires, on y trouve du réconfort, de la sécurité et idéalement de l'harmonie. Or, 56% des familles seraient dysfonctionnelles. Que faire justement quand rien ne va plus au sein de sa famille? Il est salutaire de demander de l'aide. Et à ce chapitre, les coachs en programmation neuro-linguistique sont aidants. Je reçois en début d'émission Mme Lynn Boulanger. Mme Boulanger a fait appel il y a 6 ans à Jessifée Marié, coach familial, que je vais recevoir en deuxième partie d'émission. Tout d'abord, je vais m'entretenir avec Mme Boulanger, mère de 3 enfants, dont des jumelles qui avaient à l'époque 9 ans et un garçon de 2 ans. Elle avait fortement ressenti le besoin de faire appel à un coach après une séparation. Bonjour, Mme Boulanger.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de venir témoigner de votre expérience. C'est très apprécié.
Merci de l'invitation.
Alors, tout de go, Mme Boulanger, comment êtes-vous arrivée à consulter un coach familial? Comment qu'on prend cette décision?
Un problème familial et ma séparation, j'avais besoin d'outils, puis je savais pas vers quoi me tourner. Puis j'ai une amie qui m'a parlé à ce moment-là de Jessifée, là, qui était coach de vie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller chercher des outils là, pour pouvoir trouver des solutions à mes problèmes.
OK, je vois. Puis votre préoccupation première, c'est sûr de faire la décision d'aller vers un coach, mais est-ce que vous aviez précisément, c'était quoi que vous voulez ou c'était simplement une difficulté familiale d'ordre général?
C'était plus d'ordre général, mais je connaissais déjà un petit peu c'est quoi le coaching parce que j'avais déjà eu... quelqu'un près moi là, qui avait pu m'aider à ce moment-là. Donc, j'avais une belle idée dans quoi que je m'en allais avec du coaching familial.
OK, je vois. Puis, vos enfants, comme on sait, ils étaient jeunes. Vous avez des jumelles quand même. Vous avez 3 enfants, des jumelles qui avaient oui. À cette époque 9 ans et puis votre petit dernier qui avait 2 ans. Au niveau des jumelles, au niveau des enfants, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ils sont conscients, parce qu'elles avaient quand même 9 ans, que maman avait été chercher de l'aide?
Oui, ils étaient conscientes, mais ils savaient aussi que c'était pour eux parce que je voulais vraiment trouver une façon là, que tout le monde fonctionne bien ensemble parce que c'était vraiment difficile. Donc, puis je pense que Jessifée, elle a su aussi aller chercher les filles plus comme grande sœur amie que seulement comme professionnelle outre. Là. Donc, okay. Leur relation était plus simple là, comme ça.
D'accord. Puis l'intervention, est-ce que ça se fait aussi avec les enfants, direct avec les enfants et les parents? Comment que ça se passe?
Moi, j'ai rencontré Jessifée, je lui ai parlé un peu de la problématique, ce que je cherchais, ce que j'avais besoin, où est-ce que j'étais dans toute cette tourmente familiale qui se passait. Puis à ce moment-là, là, avec une rencontre moyenne ensemble, on a pu... établir après ça là, qu'elle verrait les filles ensemble, elle a vu les filles seules, on a été tout le monde aussi ensemble, vraiment chacun a eu sa place.
D'accord. Puis les enfants, ils étaient très ouverts, est-ce que ça a pris un peu de rencontre avec elles, est-ce qu'elles étaient ouvertes, elles n'avaient pas peur non plus de parler?
Non, ça s'est vraiment bien passé. Ça a été vraiment plus comme une relation d'amitié, je pense, là, que les filles sentaient. Donc, il n'y avait pas de problème de... j'ai jamais senti comme quoi que les filles n'étaient pas à l'aise. Là. Vraiment, ça a été une belle rencontre.
OK. Puis, ça a duré combien de temps, cette intervention, l'appel d'un coach? C'est sur quelques semaines, plusieurs mois?
Moi, ça a duré plusieurs mois, étant donné que la séparation a duré plusieurs mois. J'ai eu besoin... de réconfort et aussi d'outils là, pour pouvoir mieux gérer mon noyau familial avec mes enfants.
Passer à travers. Puis ouais. À ce moment, votre préoccupation, c'était vraiment de faire en sorte que peut-être que vos enfants ne ressentent pas la séparation, qu'ils la comprennent. Est-ce que c'était ça aussi le but que vous recherchiez?
Oui, puis qu'ils ne se sentent pas aussi... je pense que les enfants dans une séparation semblent beaucoup... tirer d'une part et d'autre, là, puis c'était vraiment pour casser des ancrés le plus possible avec eux-mêmes, puis, mm-hmm. puis que tout le reste puisse bien aller, là.
Oui, je vois bien tout ça. Je sais que Jessie-Fé, Marie, si elle est en programmation neuro-linguistique. Oui. Par rapport, comme vous m'avez dit en début, que vous avez eu d'autres sortes de coaching, ce serait quoi pour vous la différence de cet outil qu'elle utilise?
Mais c'est vraiment individuel à chaque personne. On sent pas que c'est pas comme du matériel qu'on donne à tout le monde. C'est personnalisé pour chacun. Puis on se retrouve aussi de travailler sur ce qu'on a et non aller chercher ce que les autres n'ont pas pour essayer de le ramener dans notre...
OK.
Oui, donc c'est vraiment personnalisé à la situation et à chaque personne. Je trouve que c'est vraiment... Oui, c'est différent comme approche. Puis c'est plus facile de l'inclure dans notre mode de vie par la suite, là.
Parce que c'est quand même spécialisé par rapport à la problématique que vous vivez dans l'instant.
Oui.
OK, d'accord.
Puis avec les outils qu'on a, puis avec ce qu'on est aussi, parce que le but, c'est de travailler avec ce qu'on a, là, pas ce qu'on n'a pas, puis qu'on voudrait amener. On est déjà une personne entière, donc c'est d'aller travailler avec ce qu'on a déjà, de renforcer.
De renforcer, et puis de... Ouais. D'avoir les outils, finalement, les outils qu'on a, mais souvent qu'on n'arrive pas seul à aller les utiliser ou à...
Exactement.
Oui, d'accord.
Ouais.
Puis, vous l'avez suivi sur plusieurs mois et ça a été bénéfique. Est-ce que vous pouvez me donner qu'est-ce que ça a réalisé finalement en bout de ligne pour vous? Qu'est-ce que ça a apporté? Vous étiez certainement satisfaite, mais concrètement, qu'est-ce que ça, vous pourriez dire que ça a apporté?
Ben, une belle symbiose familiale, là, avec. Je pense que j'ai réussi à passer au travers de ça, mais mes enfants aussi, on s'est alliés avec tout ça, puis je pense que ça a été plus facile et plus simple aussi, puis on en est ressorti avec. C'est une mauvaise expérience, mais on en est sorti avec une belle expérience parce qu'on. On s'en est sorti avec des trucs qu'on a travaillé sur nous-mêmes, puis on l'a fait ensemble aussi.
Ah, super. Puis vos enfants, maintenant, elles sont beaucoup plus âgées, sur les jumelles.
Oui, mes filles vont avoir presque 16 ans. Là,
16
donc,
ans. Puis est-ce qu'à travers ce qu'elles vivent en jeune femme, en devenir, est-ce qu'il y a des outils qu'elles utilisent, qu'elles reprennent dans ce qu'elles ont connu?
Oui, certainement. C'est sûr que je pense que plus on vieillit, plus il y a des choses dans notre vie qui se passent, qu'on a besoin d'autres outils. Ça peut être toujours, c'est toujours bien de renouveler tout le temps ces outils-là. Puis oui, ils sont toujours là, nos outils, c'est de nous reconnaître. Donc, c'est sûr qu'ils étaient plus jeunes, il y a des choses qu'ils ne se souviennent peut-être pas, mais moi, je sais que ça les a aidés à grandir.
Ah, c'est super. Donc, alors, avec tout ça, vous, quel conseil donneriez-vous à des gens qui hésitent à aller chercher de l'aide, surtout familiale, parce que individuelle, on est peut-être un peu plus porté, mais l'aide familiale pour que ça réagisse sur toute la famille, c'est des fois un peu plus, les gens ont plus de difficultés. Donc, quel conseil donneriez-vous à des gens qui hésitent, à des mères de famille qui aimeraient peut-être faire appel à un coach familial?
Bien, de ne pas attendre, parce que c'est vraiment des outils, puis c'est ça qui nous aide à grandir et à avancer. Donc, tu sais, il n'y a rien de nuisible dans tout ça. Puis des fois, c'est juste de se mettre devant un miroir, mais on a quelqu'un devant nous qui est le miroir, puis qui nous reflète ce qu'on est, mais qui nous apprend, dans le fond, qui nous fait voir ce qu'on est. Donc, c'est plus facile à avancer. Des fois, on l'a dans le visage, puis on n'est même pas capable de nous-mêmes, mais c'est juste quelqu'un qui va nous allumer la petite lumière. Donc, c'est important d'y aller. Pour pouvoir avancer. Puis, c'est tellement important, un noyau familial. Là, c'est l'essence de ce qu'on est quand on crée une famille. Donc, ça va toujours rester là, malgré les difficultés. Mais si on met un emphase là-dessus. Là.
Oui, tout à fait. Ouais. À cette époque, vous étiez aussi au travail pendant la séparation?
Oui.
Ça? Donc, est-ce que au niveau du travail, ça vous a permis aussi peut-être de continuer? Est-ce que vous avez pu appliquer certains outils aussi au niveau du travail?
Oui, bien, j'ai appris à connaître un peu plus qui j'étais. Donc, oui, ça, c'est sûr que ça l'a aidé au travail. Dans toutes mes phases de ma vie, ça m'a aidé parce que c'est sur moi que j'ai travaillé. Ça m'a regardé et à me mettre des outils sur les choses que j'avais déjà, mais que je ne développais pas nécessairement. Donc, dans toutes les phases de la vie, que ce soit en famille, en amitié, en amour, peu importe, ça nous fait c'est toujours quelque chose qu'on va avoir besoin.
Et donc, alors vous, dans votre vie, vous êtes assez à l'aise à faire appel à des coachs selon les événements que vous vivez ou les outils dont vous aurez besoin.
Oui, vraiment.
Bon, écoutez, Madame Boulanger, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Je pense que c'est très éclairant sur le coaching familial. Puis sans aucun doute, avec ce que vous nous avez amené, ça va motiver d'autres familles aussi à prendre cette décision bénéfique pour le bien-être familial. Puis je vous félicite de l'avoir fait et que ça a été très bénéfique aussi pour vos enfants. Merci beaucoup, Madame Boulanger.
Merci, passez une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Imagine de John Lennon, une chanson qui traverse le temps. Nous venons d'entendre le témoignage de Mme Boulanger qui a eu recours au service d'un coach familial qui était Mme Jessifée Marié, que je reçois en deuxième partie d'émission. Jessifée Marié est coach certifiée en programmation neurolinguistique, communément appelée PNL, conférencière et formatrice. La PNL fait partie des médecines alternatives et Jessifée Mariée, en plus d'utiliser cette approche dans son coaching, elle est en voie de devenir formatrice en PNL. En pratique depuis 9 ans, elle a été chargée de projets en compétences parentales, a travaillé dans les maisons de famille et fait aussi de l'hypnose pour aller chercher ce qui est dans l'inconscient. Bien, en quelques mots, la programmation neurolinguistique s'intéresse à la façon dont les humains fonctionnent dans un environnement donné et ce, en fonction de leurs schémas comportementaux. À travers un ensemble de techniques et de méthodes, la PNL aide à changer la façon dont un individu perçoit son environnement. Nous allons en savoir plus avec notre invitée. Bonjour Jessifée, puis bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour Marjorie, merci.
Ah, ben, très contente de te recevoir. Et puis, tout de go, on va se tutoyer parce que nous nous connaissons. Donc, ça va bien mettre la table. Alors, contente que tu aies accepté notre invitation. Alors, la première question, Jessifée, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de devenir coach?
Wow, c'est une bonne question. En fait, j'avais 22 ans à l'époque et j'avais envie de contribuer un peu à un monde meilleur. Puis j'avais envie de faire de la psychologie, du travail social. J'avais envie de contribuer avec les familles, l'éducation, tout ça. Puis je trouvais que la PNL était, quand j'ai découvert c'était quoi la PNL, ça tombait juste à pile poil en fait. Et ça venait répondre à vraiment toutes le côté humain, le côté libre, le côté qui est sans étiquette, qui est de respecter l'autre, de respecter la carte du monde de l'autre. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup attirée, en fait, envers la PNL. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de devenir PNListe.
Oui. Donc, toi, tu as eu le désir de devenir coach. Est-ce que pour être coach, il faut aussi faire un travail sur soi?
Absolument, absolument. en fait, c'est sûr que c'est un engagement aussi d'évolution constante parce que on attire nos clients. Donc, si on est continuellement on stagne, en fait, dans notre évolution personnelle, on va avoir toujours le même type de clients et on va les amener à un certain niveau. Qui va être le niveau dans lequel nous, on baigne, en fait. Mm-hmm. Et donc, ça demande continuellement de faire des formations, de travailler sur soi, d'aller en profondeur avec soi, d'être honnête avec soi continuellement, en fait, pour pouvoir être capable d'accompagner les gens. Donc, je dirais que à 100%, ça demande de faire un travail sur soi. Autrement, malheureusement, parce que ça reste aussi quand même du travailleur autonome, il y a des certaines blessures et limites qui nous empêchent de pouvoir aller à la rencontre de l'autre.
Oui. Et la PNL, c'est quelle est la différence hein, par rapport à d'autres types d'aide comme un psychologue, un éducateur spécialisé ou même un travailleur social? Peux-tu nous parler des différences?
En fait, avec la psychothérapie, on va aller beaucoup chercher, moi je vois ça comme de l'archéologie, tandis que quand on va faire de la coaching, c'est plus de l'architecture. Donc, on prend ce qu'il y a là. On n'a pas besoin d'aller voir en profondeur tout ce qui s'est passé et à quel point ça va mal. On veut savoir qu'est-ce qui fonctionne pas puis comment ça peut fonctionner mieux. Donc, c'est très centré, c'est très proactif. On passe à l'action assez rapidement. Ça ne demande pas non plus d'être éternisé pendant des années, ni des mois, ni des semaines. Généralement, en bas de 8 séances, c'est réglé. Des fois, c'est même 3 séances. Ça dépend aussi de l'engagement de la personne, de où elle est rendue, etc. Tandis que quand on va aller voir un psychologue, c'est un petit peu différent comme approche dans le sens où ils sont très dans l'écoute, en fait, poser peu de défis, de devoirs, etc., pour mettre la personne en perspective puis l'amener à faire un changement rapide. Donc, c'est un peu ça la différence. C'est avec le travailleur social, ça travaille beaucoup au niveau de la communauté aussi, dans les ressources, etc. Donc, je travaille beaucoup aussi avec les organismes, tout ça. Donc, de référer à les organismes, d'aller chercher des ressources. Donc, c'est ça un peu la différence. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en tant que personne par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on veut exactement atteindre comme objectif. Donc, en coaching, on va vraiment passer par c'est quoi ton objectif puis vers quoi tu veux aller.
Donc, les résultats viennent rapidement. Comme
Absolument.
Tu le disais.
Okay. Absolument.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir quelqu'un où tu vois que tu ne peux pas vraiment l'aider, qu'il faut référer vers un psychologue?
Oui, ça peut arriver dans le sens où, admettons, j'ai eu des cas des fois avec de la maladie mentale. Mais à ce moment-là, généralement, quand ils viennent, ils sont déjà suivis. Sinon, on peut faire de l'accompagnement proactif pour aider dans le mieux-être et dans le bien-être. Mais ça peut arriver que la personne n'est pas nécessairement prête à faire face à ce qu'elle doit travailler. Donc, à ce moment-là, on va aller référer à un psychologue ou si la personne n'est pas prête à regarder un peu ce qui se trouve en dessous du tapis, je dirais, là. Mm-hmm. À ce moment-là, on va référer, mais c'est sûr que s'il y a de la maladie mentale, des difficultés, dépression, on va aller travailler le bien-être, mais on ne va pas traiter la dépression. Donc là, ça devient le ressort d'un psychologue. Des fois, si on a des gens qui touchent à de la schizophrénie, mais s'ils sont accompagnés par un psychiatre et un psychologue, à ce moment-là, on peut travailler avec la personne pour son quotidien, son bien-être. Donc oui, ça arrive qu'il faut, il faut référer aussi, ouais.
OK. Puis, comment tu as entendu notre première invitée, qui était un témoignage, qui a fait appel justement à tes services en coaching familial. Donc, la séparation des parents, c'est certainement un motif pour aller chercher de l'aide, mais dans quelles autres circonstances aussi on fait appel à un coach familial?
Quand il y a de la rivalité entre frères, sœurs, quand il y a des difficultés d'apprentissage dans la famille, quand il y a des conflits, parce qu'une famille, c'est un système, en fait. Donc, admettons qu'un enfant a une difficulté, souvent, bien, il y a le système tout entier qui a des répercussions. Alors, on va travailler le système. Aussi, quand il y a eu du deuil, un deuil dans la famille, moi, je vois aussi des familles que, mettons, la maman, elle est décédée ou le papa est décédé. Et à ce moment-là, donc les enfants ont besoin d'accompagnement, n'ont pas nécessairement besoin d'aller voir un psychologue, mais ont besoin de mettre en place des outils ou encore de programmer ce qu'ils ont besoin pour pouvoir passer à travers ce deuil-là. Donc, je dirais les deuils, les difficultés, troubles d'apprentissage, quand un parent est à bout, quand un parent ne sait plus mettre ses limites, quand les enfants ont aussi retournent, en fait... soit dans leur enfance ou développent des comportements qui sont limitants, à ce moment-là, ils peuvent venir travailler en fait en coaching.
OK. Dans le témoignage de Mme Boulanger, elle nous disait aussi qu'il y avait le contact avec les enfants. Comment ça se passe lorsque tu rentres dans une famille où il y a eu le besoin du coaching familial?
Mais c'est sûr que dans un système, chaque personne, chaque individu vit la situation différemment. On a tous nos propres perceptions. Donc, à ce moment-là, quand je travaille une famille complète, j'aime bien les rencontrer. En fait, en coaching familial, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer la personne, la famille, puis comprendre un peu c'est quoi leur objectif à atteindre et rencontrer les parties individuelles pour travailler. Donc, ça se peut qu'un vive une situation de cette façon-là ou une peur ou une blessure quelconque. Donc, on va aller travailler ça par rapport au système complet puis regarder, en fait, quel est le noyau qui enclenche la problématique dans le système. Donc, on fait aussi de la résolution de conflits. On travaille aussi au niveau des programmes qui doivent être effectués parce qu'un enfant va avoir certaines limites par rapport souvent à nos propres limites en tant que parents. Donc, on porte souvent ce que nos parents ont porté comme schéma transgénérationnel ou encore comme émotion ou blocage, donc sont transférés à ces enfants-là. Donc, c'est important d'aller voir l'enfant, mais aussi travailler avec le parent parce que le parent reste l'accompagnateur de son enfant et c'est aussi à lui de se s'outiller pour pouvoir continuer de faire son travail avec son enfant sans penser qu'il est une problématique. Et là, il y a aussi souvent de l'estime de soi en tant que parent qui prend un coup. Déjà, d'aller chercher de l'aide, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est très honorable, mais ça demande beaucoup de courage aussi. Tant qu'en étant maman ou en étant papa, aussi beaucoup en maman, parce qu'une maman veut aussi sécuriser ses enfants, s'assurer du bien-être de ses enfants. Donc, ça demande beaucoup de courage. Alors, on va traiter tout le système en entier. Des fois, c'est juste qu'il y a un conflit entre deux où, finalement, ils ont une peur commune. Donc, on va aller travailler ces deux parties-là pour voir qu'est-ce que ça va effectuer dans tout le système. On appelle ça beaucoup de la systémique en PNL. Donc, on va aller travailler dans la systémique.
Oui. Alors, je suis toujours en compagnie de Jessifée Marié, coach, conférencière et formatrice. Alors, Jessifée, c'est ça, on parlait de la situation familiale. Est-ce qu'il y a une différence aussi comme quand tu rentres dans une famille qui a deux jeunes enfants par rapport aussi à une famille qui a des adolescents dans ton intervention, il y a certainement une différence. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, absolument. Un enfant va souvent travailler avec des métaphores, avec des dessins, avec du visuel. Et Donc, ça se peut que des fois, on travaille et qu'on soit en train de jouer à un jeu pour aider l'enfant à se programmer. On va utiliser des dessins. Donc, fais-moi un dessin de comment ton cœur se sent en ce moment. Ah, ben, il y a une grosse tache noire. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans ton dessin pour que la grosse tache noire disparaisse? On va les rajouter, puis on va travailler des sous-modalités. Donc, on va aller rajouter ce qu'il a besoin pour que ça change, en fait, le pattern neurologique ou encore la programmation neurolinguistique qui se passe à l'intérieur de la personne. Tandis qu'un adolescent, on a tous passé l'adolescence, donc c'est différent l'approche avec un adolescent. Les adolescents sont souvent très fermés au départ.
Oui.
Et très introvertis aussi. Puis c'est normal parce qu'ils sont en développement de leur identité. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est un enfant, on est en absorption. Quand on est adolescent, on est en train de développer qui on est. On est entre vouloir s'affirmer, mais pas pouvoir s'affirmer. Mm-hmm. Entre j'ai de la pression de qui je dois être versus qui je suis et qu'est-ce que je suis en train de devenir et ce que je veux être. Donc, c'est très différent comme approche. D'où pourquoi, avec la PNL, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment s'adapter aux mécanismes de la personne, s'adapter à son modèle du monde et non essayer d'imposer certaines choses ou encore de les amener à avoir notre propre perception. Donc, on travaille beaucoup les mots de la personne en faisant la reformulation, oui. En entrant à travers en voyant son univers à travers ses yeux. En fait, on va à la rencontre de l'autre. Donc, un enfant, on joue. On s'amuse, on met en place. Des fois, ça va être des dessins, des bonhommes, ça va être des métaphores, ça va être des objets quelconques. Des fois, j'ai eu des enfants qui avaient de la difficulté avec le fait de manquer de sécurité. Donc, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ils avaient encore le réflexe de mettre leurs doigts dans la bouche pour s'endormir. Mm-hmm. Et donc, je veux pas, ça crée une dentition qui... des formes. Alors, à ce moment-là, c'était de voir qu'est-ce qui a fait que ça s'est programmé comme ça. Puis ça remontait à l'enfant à 6 mois. On lui avait dit à la maman, écoute, laisse-la pleurer puis elle va finir par s'endormir. Donc, à ce moment-là, cet enfant-là avait eu cette espèce de traumatisme oui. depuis l'âge de 6 mois et a gardé ce réflexe-là. Donc, des fois, on va juste créer une formule magique qui va être avec les mots de la personne, de l'enfant, dans son propre conception du monde. On va aider le parent aussi à régler sa blessure parce que, veut pas, le parent a vécu de la culpabilité à ce moment-là. Et en travaillant leur relation avec eux-mêmes puis avec l'enfant, ça vient estomper le comportement qui est limitant.
OK. Puis il y a l'approche PNL. Est-ce que tu as d'autres approches que tu utilises aussi en même temps?
Oui, j'ai aussi fait orienter solutions, de la communication non violente. J'ai eu aussi des formations parce que quand je travaillais dans des maisons de famille, tout ça, il faut faire de la formation continue. Donc, j'ai travaillé en cyber-intimidation. J'ai eu des formations aussi en valorisation paternelle, en valorisation okay. familiale mère aussi. Parce que maman puis un papa, c'est pas la même chose.
Voilà.
Et puis pas de la même façon.
Alors, c'est très intéressant. Reste avec nous, Jessifé. Nous allons aller à une petite pause et on parlera après des différentes interventions.
Parfait. Merci.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Je poursuis avec Jessifé Marié, coach, conférencière et formatrice. Jessifé, peux-tu nous dire à quoi peut ressembler ton intervention dans le cas, par exemple, d'un décalage entre les interventions du père et de la mère?
En fait, pour poursuivre tout à l'heure à ce qu'on disait, la valorisation du père et de la mère, c'est différent. Une maman sécurise beaucoup l'enfant. Tandis qu'un papa va mener à porter des actions chez l'enfant. Donc, si je travaille dans un système ou qu'on travaille avec un système qui le père a de l'anxiété ou encore des difficultés au niveau de l'insécurité personnelle, tout ça, va avoir moins tendance à porter, à aider les enfants à passer à l'action. Donc, généralement, un enfant qui, le père est absent, va amener à soit de l'autodestruction, de l'auto-sabotage ou encore l'enfant, généralement, quand un adolescent vient me voir et il veut décrocher au niveau scolaire ou encore qu'il finit pas ce qu'il commence comme projet, souvent le père est absent. Donc, la première des choses, même en tant qu'adulte, quand ils viennent me voir en coaching et qu'ils me disent, mettons, OK, ben écoute, moi, j'ai lâché l'école, je croyais pas en moi. La première des questions, c'est est-ce que papa était présent? Non, papa était pas présent. Donc, il y a une différence entre... Et c'est important de valoriser chacun. Parce qu'une maman... a besoin de sécuriser, comme je disais tout à l'heure, elle va venir réconforter. Donc, si la maman n'est pas présente, elle, ce que ça va créer, souvent, c'est de la difficulté avec nos émotions, la difficulté à s'exprimer, des cas de dépression, des cas de sentiments de limitant envers soi-même. Donc, c'est très différent. Un représente beaucoup plus l'émotion et l'autre représente plus la logique et l'action. Donc, une femme est beaucoup plus dans la créativité, tandis que le père est beaucoup plus dans le faire. Donc, d'où pourquoi c'est important pour un enfant d'avoir accès à une énergie masculine et une énergie féminine pour pouvoir se développer. Donc, généralement, quand je travaille avec un système familial, en fait,
oui,
on va beaucoup travailler avec les deux parties parce que les deux ont besoin. Mais en général, c'est beaucoup plus la femme qui va venir faire appel à des services de coaching dans le sens où elle s'inquiète pour l'harmonie familiale. Et là, il y a quelque chose qui enclenche. Et souvent, une maman a été chercher beaucoup, elle a lu des livres, elle a tenté, elle a essayé, elle est allée chercher de l'aide, elle a demandé. Et à un moment donné, elle arrive à bout de souffle et c'est là qu'il y a comme un déclic d'OK, là, j'ai peut-être besoin d'un coach familial, j'ai peut-être besoin d'une nanny ou quelque chose, ou quelqu'un, ou d'une situation quelconque, ou d'un organisme. Et encore là aussi, on avait beaucoup plus, quand je travaillais à la maison de la famille, il y a beaucoup plus de femmes qui vont chercher de l'aide dans les organismes aussi.
Mm-hmm.
C'est comme le réflexe en tant que tel, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est elle qui s'occupe de la sécurité. Donc, c'est la première à voir ce qui fonctionne pas dans le système ou « Oh, il y a peut-être quelque chose qui va se passer ». Chez l'homme, ça se passe un petit peu différent.
Oui.
Ça prend plus de temps.
Je vois. On parle, on sait qu'il y a beaucoup de, je sais pas, le pourcentage de familles monoparentales.
Ouais.
Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir comme des pères seuls qui viennent te demander de l'aide dans
Absolument.
Le coaching familial? Ah oui? Peux-tu nous en parler?
Absolument. Puis souvent, c'est qu'ils sont eux-mêmes à bout de souffle, ils savent pas comment gérer ou ils ont été dans des relations toxiques. Et là, parce qu'il y a aussi ça, comme je disais tout à l'heure, la maman, elle veut beaucoup sécuriser les enfants et elle... À un moment donné, une maman, quand elle devient maman, elle s'oublie souvent. Elle oublie de nourrir sa femme intérieure, ses ambitions, ses passions. Et elle devient, parce qu'on a 6 rôles, en fait, à l'intérieur de chaque être humain. On a notre génitrice, on a notre maman, la mère, l'amoureuse, la femme et la petite fille à l'intérieur de soi. Et la même chose pour les hommes. Donc, à ce moment-là, on a comme tendance, en tant que femme, de devenir une super maman. Puis, en même temps, ben, on veut être une bonne mère. Puis, on oublie de valoriser les autres sphères. Donc, à ce moment-là, souvent, ce qui se passe quand il y a une séparation, c'est que la maman veut s'accaparer les enfants.
Ah oui.
Pour la sécurité pour les enfants. Et elle a beaucoup d'inquiétudes.
Ouais.
En tant que femme, on aime beaucoup que la maison soit bien ordonnée, que les choses soient faites.
Exactement.
Donc, c'est pas fait de la même façon de l'autre côté. Ça peut créer des conflits. Et là, en tant qu'homme, souvent, ils sont dépourvus, ils savent plus comment gérer. Et encore, j'ai beaucoup de papas qui ont voulu s'impliquer au niveau du développement de leur enfant ou en étant présent avec les enfants. Et c'était difficile, donc ils devaient se battre en cour juridique pour prouver « non, je veux mes enfants ». Et instinctivement, on a plus tendance à donner la garde des enfants à la maman.
Ouais.
J'ai envie de dire un peu malheureusement, heureusement, malheureusement, dans le sens où un enfant a besoin des deux pour se développer en tant que tel. Donc, de priver totalement d'un des deux parents peut éventuellement créer une problématique. Donc, je dis souvent aux mamans, essaie pas de faire le rôle du papa parce que tu seras jamais un papa.
Ouais.
Et j'ai des papas aussi qui tombent soit monoparentales ou encore que la femme décède, l'épouse en fait, ou la maman. Puis j'en ai justement une famille en ce moment, puis ils sont adolescentes, les cocottes. Donc là, ils sont privés de leur maman. Donc ça devient difficile aussi. Puis en tant que papa, tu sais, les petites filles, c'est différent. On n'a pas la même approche. Et les enfants aussi, même un papa, ou que ce soit un petit garçon ou une petite fille, d'aller se livrer au papa, c'est une approche différente. Donc ça devient un peu difficile. Et là, ils sont dépourvus. Donc ils viennent chercher de l'aide à ce moment-là pour dire, écoute, là, moi, je suis à bout de souffle, je sais plus quoi faire.
Ouais.
Mais je veux faire bien les choses.
Ouais.
Donc je dirais, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est souvent plus la maman qui vient, mais il y a beaucoup de papas qui viennent puis qui disent, écoute, là, je ne sais plus quoi faire.
Oui, très intéressant. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'entretiens avec Jessifée Marié, coach conférencière et formatrice. Jessifée, on ne va pas se cacher, hein, le rôle parental, c'est un rôle quand même qui est difficile.
Absolument. Et un enfant ne vient pas avec un mode d'emploi. Donc, autant pour le parent, autant pour l'enfant, c'est pas facile. Là. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de... Même si on lit des livres « Naître et grandir » et « Savoir être parent », et face à une situation, il n'y a pas de remède magique. Et chaque individu est différent. Et on a des situations où on a des blessures et des programmations qui nous amènent à être faire face à soi. Mm-hmm. Donc, le nombre de gens qui viennent consulter en coaching familial et qui, en fait, ça les amène à faire face à eux-mêmes, en fait, que ce soit que l'enfant vive l'intimidation, que ce soit que l'enfant ou dans le système, il y a de la chicane, il y a du rejet, il y a de l'abandon, tout ça. C'est souvent ce que les parents ont vécu, c'est un peu un reflet. Et l'enfant, souvent aussi, va amener à pousser à bout les parents.
Oui.
Ils savent où peser pour avoir une réaction.
Ah oui, on le sait.
J'ai beaucoup de familles puis en coaching qui viennent chercher de l'aide aussi avec d'autres coachs, tout ça en PNL. L'enfant veut créer une réaction pour que le parent développe un outil ou encore mette ses limites ou encore, souvent quand la maman est à bout de souffle, le papa travaille tout le temps, elle est à bout, elle sait plus quoi faire, elle a essayé d'exprimer à son conjoint, écoute, j'aimerais ça que tu passes plus de temps avec les enfants, mais là, le papa a besoin de plaire, donc il dit oui tout le temps pour le remplacement au travail. Et là, ça crée toute une systémique autour de ça. Les enfants dormiront plus.
Oui. Ah oui, tout à fait.
Ou vont dormir avec les parents. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'ils veulent avoir la rassurance, ils veulent avoir de la présence avec le parent. Ils peuvent s'inventer des scénarios, ils peuvent aller loin pour avoir l'attention du parent ou pour amener les parents à faire comme « OK, c'est assez, là. Là, je dois faire un changement. »
Ouais, ouais. On voit dans ce que tu nous dis, il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide, mais avec ce que tu nous dis, est-ce que c'est préférable de consulter quand les enfants sont plus jeunes?
J'ai envie de dire que de 0 à 7 ans, un enfant se programme.
Oui.
Donc, idéalement, si on peut consulter quand on voit qu'il y a un petit quelque chose, si on le sent en tant que parent ou en tant que maman, que OK, j'ai l'impression qu'elle a peut-être besoin d'aide ou mon enfant est dépourvu ou elle s'isole ou encore elle me dit pas nécessairement qu'est-ce qu'elle vit ou idéalement. Parce qu'après ça, ben c'est où la personne va aller consulter plus tard, rendu à l'âge adulte, ou ça va être des comportements qui vont être développés à l'adolescence, etc. Donc, tu sais, idéalement, le plus tôt possible, quand on décèle quelque chose ou quand on voit que dans le système, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, allez demander de l'aide. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une bonne maman. Bien au contraire. Des fois, on a déjà fait le tour de notre sac à outils ou encore on est en train de monter une montagne puis on a notre pieu pour mm-hmm. pouvoir continuer d'escalader dans le fond du sac. Mais on ne peut pas être en train d'escalader la montagne en même temps que fouiller dans le sac parce qu'on peut tomber. Donc, des fois, c'est juste d'avoir un petit coup de main, de dire oh, « OK, ben je vais te redonner ton outil, tu l'as déjà en fait » parce que dans tous les êtres humains, ils ont déjà toutes les ressources ouais. pour atteindre leur objectif. Donc, tout est déjà là.
C'est ce qu'on nous dit, hein, qu'on a déjà tout en soi, mais que c'est difficile parfois d'aller les reconnaître.
Oui, puis aussi, si tu me permets, j'ai envie de dire, des fois, ça peut même prendre 3 ans avant de recevoir de l'aide pédagogique ou recevoir de l'orthophoniste ou de recevoir... Donc, le plus tôt, on le sent en tant que femme, en tant que maman, qu'il y a quelque chose, ou que ça soit du trouble du langage, que ça soit d'aller, de suivre son instinct en tant que maman, en tant que femme, de dire, OK... Je vais aller consulter parce que les listes peuvent être longues, les services peuvent être longs. Donc, le plus tôt possible qu'on va chercher de l'aide, mieux c'est. Aussi pour la confiance de l'enfant, plutôt que de tomber dans une étiquette de « Ah, je suis problématique, je crée des problèmes, c'est de ma faute », mais l'enfant va avoir tendance à dire « Ah, OK, mais je suis allée chercher de l'aide, on a cherché de l'aide, etc. »
Oui. Wow, c'est extraordinaire, très éclairant ce que tu nous amènes à cette émission. On a parlé un petit peu des enfants, ça peut aussi prévenir comme un décrochage scolaire. Est-ce que tu fais des interventions à ce niveau?
Absolument. Puis souvent, Comme je disais tout à l'heure, le décrochage scolaire, c'est souvent le papa qui est absent. Donc, il y a une raison pourquoi le papa est absent. Des fois, c'est parce qu'il se sent pas soit valorisé dans son rôle de papa ou il a pas vu l'image d'un papa qui s'amusait avec ses enfants ou qui était présent.
Okay.
Donc, eux aussi sont un peu perdus dans leur développement, en fait, ou encore, puis nous, en tant que femmes, on aime bien trouver tout ce qui est dysfonctionnel et essayer de trouver un moyen de dire, écoute, il y a peut-être ça qui pourrait être fait.
Alors, en tout cas, reste avec nous, Jessifine. Nous allons poursuivre avec une chanson et puis de revenir avec toi pour la suite.
D'accord.
Dis-leur que le ciel les entend. Dis-leur que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dis-leur qu'ils n'ont rien fait autant. Dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, mais qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur que tant d'autres nous suivent, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands du rêve. Marchand du rêve, yeah. Dis-leur qu'ils ont droit au bonheur et qu'un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes. Oh. Dis-leur que demain est à eux, qu'ils fassent à la misère leurs adieux en dépit des signes. Oh, 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 si tu descends. Salut le courage de nos femmes, salut la grandeur de leur âme, et tu dirais à nos mères qu'on arrive chasser leur chagrin. Oh, oh, tu dirais à nos pères qu'on attend qu'ils montent enfin leur grand drapeau blanc, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps.
Les marchands de rêves de Corneille, chanson choisie par Jessifée. Je trouve qu'elle te ressemble, cette chanson. Tu rêves beaucoup?
Oui.
Oui.
Il y a beaucoup de marchands de rêves aussi qui sont avec ou sans papier, qui contribuent à notre société, qui aident, qui se dévouent. Donc, ouais, c'est une chanson qui me fait beaucoup vibrer.
Ah oui,
Tout rêver, c'est important.
très belle chanson. Alors, je suis toujours avec Jessifée Marier, coach, conférencière et formatrice. Je vais t'amener maintenant vers la pandémie, hein, qu'on est toujours en pandémie, avec les mesures sanitaires, tu sais, qui obligent l'isolement. Est-ce que tu as eu plus de demandes de la part des familles ou même des demandes individuelles?
En ce moment, je suis bookée jusqu'à mars et j'étais bookée de septembre jusqu'à décembre. Et j'ai accepté de faire beaucoup plus d'heures. Je pense que tout le monde qui est dans les relations d'aide en ce moment ont moindrement qu'il y a un côté altruiste parce que les gens ont de plus en plus besoin d'aide, que ça soit qu'il y ait de la violence conjugale, que ça soit de faire face à les relations, que ça soit la famille. On est constamment tous ensemble dans une famille presque 24 heures sur 24. Donc, veut pas, c'est sûr que ça développe des conflits. On a moins d'intimité pour soi. Et je dirais que, en même temps, j'ai envie de dire que c'est une belle période parce que justement, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à dire, écoute, je pense que ça fait des années que j'allais pas bien puis je m'en rendais pas compte, où j'étais sur une espèce d'autopilote et je savais pas que je respectais pas soit mes besoins ou, donc il y a eu énormément de couples, de familles qui sont venues chercher d'aide, énormément, l'individu aussi. Mais je dirais qu'il y a eu une espèce de ça a éclaté là. Puis aussi, veux pas, avec les familles qui sont séparées durant le temps du COVID, c'est difficile. Il y a aussi les espèces de guerres de croyances qui se sont réveillées. Donc c'est très délicat. Il y a eu beaucoup, beaucoup de séparations durant le temps du COVID aussi, parce que encore là, on respecte tout le monde, tout ça. Mais il y a des espèces de c'est normal, un peu de guerre, de justement, moi je suis pour, moi je suis contre, moi je veux ci, moi je veux ça, moi j'ai peur, moi je... Et veux pas, c'est sûr que ça crée des tensions au sein d'une famille, ça crée des tensions, faut se réadapter continuellement, adaptation de l'école à la maison. J'ai des gens qui ont eu à faire de l'école à la maison, il y en a qui ont tout quitté, ont quitté même le pays, il y en a qui, au contraire, ont voulu travailler au sein de la famille puis de réaliser, OK, peut-être que je les voyais pas suffisamment finalement, fait que j'aimerais ça faire une réorientation de carrière, en fait. Donc, je dirais que la pandémie a réveillé tout le monde.
Okay.
Ça a créé quelque chose chez tous les humains, d'après moi.
Oui, oui. Puis au sein des familles, comme tu le disais, ça n'a pas été facile avec les choix, difficiles à faire aussi.
Oui, puis aussi, tu sais, de ne pas voir les grands-parents, d'avoir des contraintes, des décès. Et encore là, tu sais, les enfants vont à l'école, vont plus à l'école, adaptation, école à la maison, travail, tout ça, c'est une logistique. Et quand ils commencent à être confortables, il y a une nouvelle mesure ou encore ça rechange. Donc, ça demandait beaucoup d'avoir les reins solides, d'avoir une faculté d'adaptation, de travailler cette adaptation-là. Il y a eu tellement de dépression durant justement le COVID. Et donc oui, je pense que pour tout le monde, même pour les services de psychologie, il y a des listes d'attente un peu partout. Donc ouais.
Oui. Puis quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent en détresse ou qui a des soupçons d'être en détresse, parce que souvent, on ne le sait pas, on l'identifie pas rapidement?
Première des choses, c'est d'accueillir ce sentiment-là, de mettre des mots, que ce soit de l'écrire ou de respirer à l'intérieur de cette détresse-là. Idéalement, c'est sûr que si on a des idées suicidaires, mais c'est d'appeler Suicide Action, c'est d'appeler votre CLLC, Info Santé, Info Sociale, pardon, 811, encore là, essayer de trouver un psychothérapeute le plus rapidement possible, ou encore de voir quelqu'un qui peut vous accompagner là-dedans. Tout dépendamment aussi, si c'est extrême, allez consulter le plus rapidement possible. Allez voir pour vous outiller. Lire des livres, prendre le temps d'accueillir ces émotions-là. Il y a plusieurs livres qui sont intéressants en développement personnel. Il y a aussi des chaînes sur YouTube, il y a des émissions de radio, il y a plein de ressources qui sont là. Les organismes,
à contacter les organismes en santé mentale de votre région aussi. Généralement, les travailleurs sociaux sont aussi outillés à pouvoir vous dire « Ah, oh, OK, bien, t'aurais peut-être... » Parce que les premières lignes, en fait, pour aider notre société, notre communauté, c'est vraiment les organismes. D'aller directement communiquer avec centres de communautaires ou encore le CLC, les travailleurs sociaux, les maisons de famille, les maisons d'entraide... Il y a des maisons qui vous accompagnent, qui vous accueillent là-bas directement si vous êtes en détresse. Les centres SOS conjugal, tout ça, c'est super important. Des ressources, il y en a. Il faut juste aller chercher, prendre le bottin, pas prendre le bottin téléphonique, mais le téléphone, en fait. On va juste chercher sur Internet ou encore on appelle Info Santé. Et là, il y en a plusieurs moyens de pouvoir trouver l'aide, là.
Oui, finalement, d'éviter de rester dans sa solitude.
Oui, absolument, absolument.
Jessifée, je suis tombée sur une vidéo dernièrement où tu as abordé un sujet moins commun, celui de la détresse des hommes. Sachant que dans la cellule familiale, on en parlait tout à l'heure, le père y joue également un rôle très important. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette détresse-là? Parce qu'on n'en entend pas parler énormément.
En fait, c'est sûr qu'en ce moment... il y a une immense passion chez la femme, il y a des mouvements, c'est génial. Et en même temps, l'homme se sent mis beaucoup de côté. Pendant des années, les hommes n'avaient pas d'émotions. Ben, en fait, ils n'avaient pas le droit d'avoir des émotions.
Ouais.
Ils n'avaient pas le droit d'avoir de la peine, de pleurer, c'était mal vu. Puis je pense encore à des gens qui viennent me consulter ou qui vont consulter, qui sont en agriculture, en construction, dans des domaines où en sport, on valorise moins la capacité d'avoir des émotions. On laisse ça aux femmes où c'est mal vu. Donc, c'est important de détruire ces croyances qui sont limitantes-là. Parce que, veux, veux pas, ça va créer une détresse chez l'homme. Et l'homme, en ce moment, a de la misère à trouver sa place, que ce soit au sein de sa famille, parce qu'il y a beaucoup l'impression de pas être à la hauteur, de pas faire correctement, de pas faire suffisamment, de pas faire ce qu'il faudrait faire, de pas être satisfaisant. Donc, tout ça joue sur son estime personnelle. Et... veux, veux pas, au sein d'une famille, si un papa se sent, c'est sûr que tout le système va être affecté. Comme que si la maman, elle vit une détresse, ça aussi, ça va venir affecter tout le système. Donc, j'ai envie de dire, mesdames ou mes messieurs, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Des fois, tu sais, ça arrive des fois qu'on va aller consulter en coaching, puis on va dire que c'est pour soi, mais finalement, on amène notre conjoint, puis la personne est capable d'aller chercher puis d'aider l'autre, même si elle n'était pas prête nécessairement. Moi, ça m'arrive personnellement souvent. Donc, c'est comme une bombe qui explose dans le salon, mais il y a une approche à avoir par rapport à ça.
Ouais.
Mais de pas hésiter, puis si votre conjoint ou votre mari ou le papa de vos enfants, vous voyez qu'il s'isole beaucoup parce qu'un homme, ça s'introvertit, ça rentre dans sa caverne d'homme. Puis un des livres que je vous conseille le plus, c'est vraiment de lire « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». On a des façons différentes d'exprimer nos émotions puis de les vivre, ces émotions-là. Donc, plus qu'un homme s'isole, plus qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête puis dans son cœur.
Est-ce que ta façon d'intervenir est différente lorsque c'est un homme par rapport à la femme?
Bonne question. C'est sûr que souvent, je vais être très honnête, là, souvent un homme va venir consulter puis il va dire ben, « je le savais ».
Ah oui, oui. On s'en doute pas.
Oui, on est bon, la conjointe, puis dire « non, mais tout ce qu'elle m'a dit, je le savais », là, c'est genre « oui, il va dire que ça vient de lui ». On lui laisse ce pouvoir là.
Il y a l'ego qui est là.
Puis un homme, tu sais, même si on donne un conseil, je vous le dis tout de suite, là, enlevez-vous de la pression, là, même si on donne un conseil à un homme, et que ça vient d'une femme, c'est rare qu'il va dire « ma femme m'a dit que je devrais faire ça ». Il va dire « hey, j'ai réfléchi ça pendant 2 semaines, puis je pense que je vais prendre congé pendant un petit mois parce que je suis sur le bord de peut-être me taper une dépression ». Il va jamais dire « hey, ma femme, merci de m'avoir dit », parce que non. Oui, il va dire « c'est son père, son grand-père, son oncle, son meilleur ami ».
Ah oui.
C'est rare qu'on va avoir le mérite. C'est rien de personnel.
Et puis, comme dernière question, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter à ta pratique qui te manque ou tu sens que tu as tous les outils actuellement pour pratiquer le métier de coaching?
Bien, en fait, pour le métier de coaching, je termine, ça fait une semaine-ci, pour devenir enseignante. Donc, l'objectif maintenant, c'est de propager et de créer des agents multiplicateurs qui vont aider notre société, des marchands de rêves ou des gens qui vont accompagner d'autres personnes le plus possible. Je dirais que de la naturothérapie, beaucoup, dans le sens où je veux pas que tu ailles pas bien dans ta tête, dans ton cœur ou au niveau physique, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai fait une formation dernièrement en accompagnement de fin de vie aussi, parce que c'est des deuils. Donc, peut-être, je ne sais pas, mais c'est sûr que je veux toujours apprendre.
On peut dire que tu es une femme tellement dynamique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors moi, je t'admire beaucoup. Je voudrais quand même te remercier d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que Jessie Fémarié est coach en programmation neurolinguistique, conférencière et formatrice. Ce fut vraiment un plaisir de t'avoir reçue.
Marjorie, pour moi, c'est un honneur parce que je le tiens à le dire en onde. Pour moi, c'est une femme extrêmement inspirante, exceptionnelle.
Merci.
Qui a de l'ambition, qui est toujours en train de travailler sur elle-même, avec aider sa communauté. Moi, je suis en admiration avec l'âme que tu es, la personne que tu es. Donc, merci pour cette entrevue, puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'apprécie énormément.
Merci à toi. Bon, ceci nous amène à la fin de notre émission. Donc, merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de la diffusion technique. À la prochaine.